Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, c'est une journée post-électorale au Maroc avec ces élections qui ont eu lieu hier, rendez-vous qui avait trois fenêtres d'entrée, va-t-on dire, législatives, communale et puis également territoriale ou régionale, tout dépend comment on souhaite les appeler. Donc rendez-vous électoraux qui ont été multiples, ce qui fait que tous les résultats ne tombent pas au même moment. On commence à avoir des éléments sur les municipales, mais on va encore attendre un petit peu avant d'avoir une photographie totale et complète, hein, claire de la situation. Pour ce qui est des législatives, là on sait très exactement ce qui s'est passé, à savoir une victoire somme toute assez franche, assez nette du Rassemblement National des Indépendants, le RNI d'Aziz Aknouche, qui remporte une victoire claire avec 97 sièges. Vient ensuite le second parti, c'est le PAM qui lui a 82 sièges. Vient ensuite l'USFP et le PPS. En revanche, la surprise, l'étonnement vient du PJD, qui était un parti tout à fait d'importance, hein, puisque lors du dernier rendez-vous électoral, lors des dernières législatives, celui-ci disposait de 125 sièges. Et bien là, il chute considérablement. Il arrive avec 12 sièges en 8e position des formations politiques. Concernant la participation des Marocains, elle a été plutôt bonne avec, comme d'habitude, des inégalités. On sait que le vote traditionnellement au Maroc, il est rural et également les provinces du Sud ont fortement désiré s'impliquer dans ce processus démocratique. Dans les cités urbaines, moins, mais encore, ça dépend des régions, des villes et des cités. Donc voilà, il faut regarder tout cela avec attention. On connaîtra vraisemblablement la totalité des résultats dans les prochaines heures, suite donc à ce rendez-vous électoral qui s'est déroulé sans aucun souci au Maroc. En Tunisie, on revient sur la folle cavale des frères Karaoui qui sont toujours en Algérie, qui sont toujours derrière les barreaux après avoir franchi clandestinement la frontière. Les frères Karaoui ont comparu devant le pôle judiciaire du tribunal de Constantine et si l'on s'en tient à la loi, en tout cas c'est ce que dit l'avocat des frères Karaoui, il serait passible d'une peine allant jusqu'à la perpétuité. Alors peut-être pas, vraisemblablement la peine qui sera enquise sera moindre, mais tout de même il est retenu des chefs d'accusation qui sont tout à fait significatifs: trafic de migrants par bande criminelle organisée, entrée sur le sol national d'une manière illégale. Donc c'est de cela dont les frères devront répondre. Pour ce qui est également de l'extradition qu'il y aura une fois que les frères Karaoui auront purgé leur peine en Algérie, eh bien ils seront extradés vers la Tunisie, et ceci conformément aux accords d'extradition qui ont été signés par les deux pays. En tout cas, cette affaire est loin d'être terminée, puisque aujourd'hui, il va y avoir vraisemblablement une audition qui sera publique des frères Karaoui, où ils pourront rentrer plus en détail, raconter exactement comment et surtout pourquoi ils ont fui la Tunisie. En Tunisie, l'AICA tape du poing sur la table. Il s'agit de la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle. C'est l'organisme qui est chargé de gérer le bon fonctionnement des radios, des télévisions et des médias audiovisuels. Et bien, des décisions ont été prises, des amendes ont été décidées de 50 000 dinars, ceci à l'encontre des chaînes Nesma TV, Hannibal TV, Zaytouna TV, ainsi qu'une radio religieuse, ceci ayant été pris la main dans le sac, puisque les licences de création et d'exploitation auraient dû être déposées auprès de l'AICA. En tout cas, il y a une procédure administrative qui devait être faite, cela n'a pas été respecté dans les règles de l'art, donc l'instance de l'AICA a décidé de procéder à des amendes avec, bien évidemment, ensuite la régularisation administrative de ces médias pour que ceux-ci puissent continuer à émettre et travailler normalement. Plus d'informations, plus de précisions sur ce coup de filet qui a été opéré par les forces de sécurité libyennes. Cela s'est passé dans la ville de Bani Walid. Il nous avait été signalé l'arrestation d'un chef important du groupe État islamique. Effectivement, il s'agit de Moubarak al-Razmi qui a donc été arrêté. C'est un homme qui a été tout à fait opérant, qui a mené des opérations de terrorisme, qui a intenté à la vie des Libyens. Il a donc été décidé de mettre un terme aux agissements de cet individu qui était en fuite depuis 5 ans. Ça fait bientôt 5 ans qu'il était recherché par les forces de sécurité. Celles-ci bénéficiant de l'accalmie générale sécuritaire sur le théâtre libyen. En tout cas, pour l'instant, le cessez-le-feu est respecté. Donc, du fait qu'il y ait cette situation plus sereine d'un point de vue sécuritaire, les opérations de contre-terrorisme peuvent être menées avec une efficience qui mérite d'être soulignée, puisque c'est véritablement quelqu'un d'important, sachant que le groupe État islamique est quand même très faible sur la Libye depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Il y a eu quelques arrestations au début de l'année 2021, mais rien de véritablement significatif, mais tout de même une immense vigilance de la part des autorités de Tripoli pour empêcher le retour du groupe sur le théâtre libyen. La lutte contre le Covid-19 en Mauritanie avec le début du couvre-feu qui finalement a été repoussé de 20h à minuit. Ceci prend effet à partir d'aujourd'hui, le 9 septembre, et ceci jusqu'à 6h du matin. L'objectif est de contenir autant que faire se peut les rassemblements familiaux, les rassemblements amicaux pour essayer d'éviter la naissance de clusters, de lieux de contamination. Donc des décisions qui ont été prises par les autorités sanitaires à Nouakchott. C'est une véritable chaîne de solidarité qui est en train de voir le jour envers le Liban, que l'on sait en souffrance et en manque d'énergie, tant de pétrole que d'électricité. Il y a aujourd'hui des bonnes énergies qui se lèvent, notamment en Irak, afin de faire venir du pétrole irakien à destination du Liban. Le ministère libanais de l'énergie fait état d'une société qui a reçu une cargaison de pétrole irakien, donc à raffiner, cargaison qui sera bientôt envoyée au Liban. Ce sont des quantités importantes, 30 000 tonnes de carburant, également 30 000 tonnes de gasoil, donc ils vont aider à faire fonctionner le pays. Il y a aussi la question de l'électricité qui se pose toujours dans ce grand pays qui est le Liban et que l'on sait aujourd'hui en grande difficulté, avec toujours ces interrogations qui se posent concernant ce qui avait été l'annonce du Hezbollah de faire venir du pétrole d'origine iranienne. Est-ce que le Hezbollah va réussir à aller jusqu'au bout de ce projet, sachant qu'il y a 2 pétroliers iraniens qui sont arrivés au large des côtes syriennes? On se demande si maintenant la cargaison ne va pas être acheminée vers le Liban via des camions citernes. Ce sont là des questions qui se posent.
Ce proche Proche-Orient si loin de nous.
Notre destination aujourd'hui est Moscou, avec cette rencontre qui va avoir lieu entre les ministres des Affaires étrangères d'Israël et de la Russie. Il y a beaucoup de tensions aujourd'hui qui existent entre les deux capitales. Alors, il ne s'agit pas de tensions fondamentales. Les relations entre la Russie et Israël sont globalement bonnes, mais de vraies incompréhensions concernant le dossier syrien. On se souvient que tout a commencé en 2018 lorsque un avion russe a été abattu lors d'une opération israélienne en Syrie. C'est une erreur de tir, mais cela a créé des tensions. La Russie qui exige d'Israël qu'il arrête de mener des opérations aériennes contre des positions soit de milices pro-iraniennes, soit de l'armée syrienne. Israël dit être dans son droit puisque ses forces armées veulent intenter au territoire israélien. Et la Russie répond à cela que ce n'est pas du ressort d'Israël de procéder et de faire soi-même sa police et que cela relève de l'autorité centrale de Damas. Donc les Russes ont demandé, ils ont même menacé d'interdire le ciel aérien à Israël. On a eu le sentiment durant quelques semaines que Israël avait entendu le message, puisqu'on a commencé à parler à Tel Aviv d'un usage non plus d'avions de combat mais de tirs de canon à longue portée. Et puis c'est vrai que ces dernières semaines, les opérations aériennes ont recommencé. Il y a eu un vol de reconnaissance et des frappes aériennes récemment. Donc avant que le ton ne devienne plus aigu entre les deux pays, il a été décidé de se rencontrer le plus vite possible pour se parler le plus vite possible et dire les choses clairement de part et d'autre, de telle façon à ce qu'un terrain d'entente soit trouvé, puisque fondamentalement, encore une fois, les Israéliens et les Russes n'ont aucun intérêt à rentrer en rivalité. L'objectif global, finalement, il est assez cohérent, quasiment le même pour chaque pays, pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, les uns et les autres voudraient une Syrie stable, apaisée et sans groupe armé. Maintenant, c'est vrai que les voies qui sont proposées par les Israéliens et les Russes ne sont pas tout à fait les mêmes, d'où l'intérêt et l'enjeu de cette rencontre.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.